Voilà, bonjour à tous. Je suis toujours dans la joie d'être à l'église de Wavrin. On a beaucoup d'histoire avec cette église, beaucoup de relations. Et puis je me réjouis aussi de voir des nouveaux visages au fur et à mesure des mois. Et ça, c'est vraiment un encouragement. Donc voilà, alors je sais qu'on est, on vient déjà de passer l'Ascension. Mais donc peut-être vous allez dire, oh, c'est un peu tard là. Mais j'avais envie de vous partager, en fait, ce qui m'est venu à cœur quand je préparais, c'était de vous parler de trois histoires de résurrection. Voilà. Et d'apparition aussi, de résurrection. Donc ça, c'est dans les 40 jours, voilà, à quelques jours près. On est dans le timing de Dieu. Et de toute façon, la résurrection, elle est toujours une réalité vivante en tout temps. J'ai oublié ma Bible.
Voilà. Attends, je vais prendre l'autre plus tôt.
Voilà. Alors, je vous propose, on va lire une première histoire dans Deux Rois. Deux Rois 13. Hop. Deux Rois 13. Versets 20 et 21. Donc, c'est l'histoire d'Élisée qui est malade et on nous dit « Élisée mourut et on l'enterra. » L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Donc il faut voir un peu le contexte. Hein. Juste avant, on voit que Élisée est malade. Et Élisée, c'est un des plus grands prophètes de la Bible. Bon, je ne sais pas si on peut les classer, mais en tout cas, c'est un des grands prophètes. Il y a 14 grands miracles qui sont cités dans la Bible que Dieu a fait par la main d'Élisée. Pardon. Et il y a des histoires de résurrection là-dedans également. Et à plusieurs reprises, les ennemis d'Israël sont confondus au travers du ministère puissant d'Élisée. Mais il est malade. Et il y a même le roi d'Israël qui vient le voir, et il est désespéré, il est en détresse, le roi d'Israël. Il dit, il est en pleurs, et il dit, mon père, voilà toi qui es les chars d'Israël. Et donc, essayons d'imaginer l'état d'esprit en Israël, alors que soudain, le grand prophète qui était la gloire d'Israël, qui était la parole vivante de Dieu au milieu d'Israël, est emporté, et pas de façon anodine, pas parce qu'il est vieux, mais malade. Et il va mourir de cette maladie. Et donc, il y a quelque chose qui dérange dans peut-être la façon de penser juive, où voilà, l'homme de Dieu est à la bénédiction, l'homme de Dieu à la force, la santé de Moïse jusqu'à 120 ans, celle de Caleb également très vieux. Et peut-être ça dérange aussi notre logique évangélique, pentecôtiste, triomphante, quand des hommes de Dieu puissants sont emportés précocement. Ça nous dérange. Vous savez, souvent j'entends cette histoire. John Wimber, qui était un grand serviteur de Dieu et qui a eu un ministère de guérison, mais qui est mort précocement lui-même de maladie. Et on peut être troublé par ce genre de choses. Et je pense qu'Israël, le roi d'Israël, ils étaient troublés. Et d'autant plus troublés que c'était un temps d'oppression d'Israël par ses ennemis. Et juste après la mort, on nous dit justement des troupes de Moabites pénètrent dans le pays. C'est comme si, parce que celui qui protégeait Israël, bon, c'est Dieu qui protège Israël, mais celui par lequel Dieu se manifestait est enlevé, et donc maintenant, ah, c'est la porte ouverte à toutes les invasions, à tous les vols, à toutes les descentes, on pourrait dire en enfer, mais voilà. Et donc, c'est les gens sont désemparés et dans la détresse. Mais dans tout ce chaos, dans toute cette peur, dans tout ce désespoir, il y a un homme qui meurt, voilà, comme des hommes meurent, Et puis, bien sûr, parce qu'il y a la peur, il y a la panique à cause des attaques des ennemis, et on entend une troupe qui arrive, hop, on jette au hasard, allez, hop, voilà, plus de respect pour les morts, on le jette. Et puis, il se trouve qu'il tombe dans le sépulcre d'Élisée et qu'il touche ses os et qu'il ressuscite. Il ressuscite. Vous imaginez ça ? Même les gens, ils n'ont même pas dû attester la résurrection, ils étaient déjà partis en courant à toute vitesse. Pof, l'homme, il ressuscite. Il se retrouve ressuscité, seul peut-être, il se demande ce qui lui arrive. Mais la résurrection vient dans un temps de chaos, dans un temps de détresse, dans un temps où les signes semblent négatifs. Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qu'il aime. Psaume 116. Et souvent on se pose la question sur certains départs, voilà, des départs de grandes serviteurs de Dieu, des départs de personnes proches. Mais ce qui est important, c'est parce qu'elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qu'il aime, c'est le fruit que portent les départs. Et même dans son départ, Élisée, qui avait eu un ministère de bénédiction pour Israël, un ministère de puissance, il porte encore un fruit. Il porte encore un fruit de résurrection sur un homme. Et pour cet homme, tout a changé. Tout a été transformé. Les autres, ils avaient les yeux fixés sur « Oh, les Moabites sont là, la peur est là, on a perdu Élisée. » Mais pour lui, tout était changé et transformé parce qu'il avait touché les os d'Élisée. Parce qu'il avait touché les os où se trouvait la puissance de résurrection, la puissance de vie de Dieu. Et donc, ça nous pose question. Au sein d'un monde ébranlé, d'un monde où des épreuves personnelles que tu traverses, où tu es ébranlé, quel est l'esprit qui nous anime ? Est-ce que c'est l'esprit de peur, de panique, de détresse, de pleurs ? Ou est-ce que c'est un esprit de vie ? Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est la vie ? Et est-ce que dans les temps difficiles, dans nos vies, dans le monde qui nous entoure, est-ce que nous nous approchons des eaux de Jésus, du sacrifice de Jésus, pour expérimenter tout à nouveau sa résurrection, comme l'a expérimenté cet homme ? Donc je nous laisse pour l'instant avec des questions, et on va continuer avec la seconde histoire de résurrection. La seconde histoire de résurrection, elle est dans Matthieu 27. Donc vous savez déjà de qui il est question, mais pas tout à fait. Matthieu 27, verset 50 à 53. Donc Jésus est sur la croix. Matthieu 27, verset 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et ils apparurent à un grand nombre de personnes. À nouveau, un contexte sombre, très sombre. Celui que les Juifs tenaient pour un grand prophète, Jésus, meurt, abandonné, au point qu'il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même si on sait qu'en fait il n'a pas été abandonné, mais toutes les apparences montre qu'il est abandonné de ses disciples, de son père, et il meurt d'une façon terrible et avec la malédiction du bois. Il porte la malédiction des bandits, de tous ceux qui étaient des gens peu recommandables et qu'on crucifiait. Et là encore, pourtant, dans toute cette détresse, dans tout ce chaos, dans toute cette absence d'espérance, il y a quelque chose qui se passe. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Ça ouvre une nouvelle ère d'accès à Dieu, d'accès direct à Dieu, au bénéfice desquels, de laquelle nous sommes, d'une relation avec Dieu ouverte pour tous et pour toujours, pour tous ceux qui placent leur confiance dans ce sacrifice de Jésus. Et puis il y a un tremblement de terre. Et donc on peut peut-être comprendre que quand il y a un grand tremblement de terre, même les sépulcres, paf, ils ne résistent pas, ils s'ouvrent. Mais spirituellement, qu'est-ce que ça nous dit ? Parfois dans nos vies, parfois dans les circonstances, il y a des ébranlements qui sont nécessaires pour ouvrir certains tombeaux dans lesquels nous sommes enfermés. Pour ouvrir certains tombeaux qui retiennent la vie captive. Quels sont ces tombeaux ? Voilà, peut-être c'est des tombeaux de non-dits dans ta vie, des tombeaux de silence, de douleur, non confrontés, non libérés, non guéris. Et des ébranlements parfois viennent, mais ils peuvent être transformés en opportunités pour Dieu d'ouvrir ces tombeaux qui nous enferment. Et donc ces morts-là, les sépulcres sont ouverts, mais ce n'est qu'après la résurrection de Jésus qu'ils ressuscitent et ils apparaissent. Hein. Jésus est le premier-né d'entre les morts, et donc il y a une résurrection qui intervient dans la suite de cette résurrection de Jésus, et c'est une résurrection des justes, hein, des saints, ou, enfin, ça dépend des versions, des justes, des saints, donc des gens qui connaissent Dieu, des gens dont la mort est vraiment importante aux yeux de Dieu, et des gens, des justes qui sont en contact avec ce Jésus, qui sont en contact avec Dieu et qui touchent les eaux quelque part, à cause de leur intimité, à cause de leur vie, à cause de leur recherche de la vérité et de la pureté, ils ont ce contact, et à cause de ce contact, ils touchent ces eaux-là et ils sont remplis de la vie de résurrection. Et alors ils deviennent des témoins dans tout Jérusalem. Waouh, quelque chose s'est passé, mais il était mort cet homme-là, mais oui, on se rappelle de lui, il avait un bon témoignage, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont des témoins dans tout Jérusalem. Mais de quoi ils témoignent ? Que la mort a été vaincue, et la puissance de vie de la résurrection a vaincu la mort. Et c'est intéressant, d'ailleurs, en réfléchissant à ça, je réalisais soudain que à qui Jésus est apparu après sa mort ? Oui, et puis ensuite il est apparu à ses disciples, et puis ensuite il est apparu aux 500 sur la montagne, mais il est apparu aux gens qui croyaient, il est apparu à ses disciples, il est apparu aux gens qui le connaissaient. Par contre, ces hommes et ces femmes qui sont sortis des tombeaux, ils sont apparus au monde entier, enfin en tout cas à tout Jérusalem, c'est peut-être pas le monde entier, même s'il y avait à Pâques toutes sortes de tribus et de personnes qui étaient là, mais ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais Christ n'est pas apparu au monde, mais ceux qui ont été ressuscités par la puissance de sa résurrection sont apparus comme un témoignage qu'il était ressuscité. Et c'est peut-être la même chose pour nous. Nous sommes appelés à croire, à voir par la foi la résurrection de Jésus et à recevoir la puissance de résurrection de Jésus afin de devenir un témoignage par une vie transformée. Tout à l'heure, Jean-Luc nous a parlé d'une vie de lumière, par une vie transformée, un témoignage pour le monde de sa résurrection. Donc Jésus ne va pas réapparaître aujourd'hui, enfin en tout cas il va revenir, ça c'est autre chose, mais il ne va pas réapparaître, mais il demande à ceux qui croient en sa résurrection de témoigner par des vies transformées, par la puissance de résurrection, que Jésus est ressuscité. Question. À nouveau, je finis cette deuxième histoire avec des questions. Qu'est-ce qui était mort en toi et qui a ressuscité quand tu as touché le corps de Jésus crucifié, ressuscité, quand tu as cru à ça, qu'est-ce qui était mort et qui a été ressuscité en toi? Deuxième question, est-ce que ma vie, est-ce que nos vies témoignent de la résurrection du Christ? Est-ce que nous sommes transformés pour témoigner vers le monde de la réalité de la résurrection de Christ? Donc des questions que je laisse à notre réflexion, on reviendra un peu là-dessus tout à l'heure. Troisième histoire de résurrection, donc c'est dans Luc 24, Luc 24, un passage un tout petit peu plus long, qu'on connaît bien, les disciples d'Emmaüs. Alors, on va lire du verset 15 à 27. Donc, ils quittent Jérusalem pour se rendre dans leur village d'Emmaüs et ils rencontrent un homme. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et donc là, on a le cas de deux disciples qui connaissent bien Jésus, qui ont sûrement marché au moins une partie des 3 ans avec lui, hein, vu leur proximité avec les autres disciples, apparemment. Mais ils sont empêchés de le reconnaître. Alors bien sûr, probablement, Jésus n'avait pas l'apparence qu'il avait du temps où il était encore vivant sur la terre. Mais ça nous parle d'autre chose. Ils sont empêchés de le reconnaître à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils ne peuvent pas croire que Jésus est ressuscité. Et la preuve en est, c'est qu'ils disent, nous avions espéré. D'où vient cette incrédulité? Nous avions espéré. Parfois, l'incrédulité dans nos vies vient de nos espérances déçues. Voilà, ils avaient une espérance. Jésus est le prophète puissant en œuvre et en parole. Oh, il ne peut pas mourir à la croix. Il ne peut pas mourir comme un maudit. Il n'a pas fini son œuvre. Il n'a pas encore délivré Israël. Et donc, leur espérance déçue amène le découragement et l'incrédulité. Combien de fois nos espérances déçues amènent le découragement et l'incrédulité dans nos vies? Mais c'est aussi parce que leur espérance était, je dirais, une fausse espérance, ou en tout cas, elle n'était pas centrée sur ce que Dieu voulait faire. Pour eux, ils avaient une vision, oh ben Jésus, comme beaucoup d'Israélites à l'époque, que Jésus allait délivrer Israël physiquement de l'occupation romaine, et puis être proclamé roi, et changer les choses. Et ça n'est pas arrivé, parce qu'ils n'avaient pas la vision plus lointaine de Dieu, qui lui veut la vraie délivrance, non seulement d'Israël, mais la délivrance des cœurs, la délivrance du péché, non seulement d'Israël, mais de tous les hommes. Et donc, souvent, nos déceptions, nos fausses espérances, nos solutions humaines sont en fait un frein pour voir la puissance de résurrection à l'œuvre dans nos vies. Mais Jésus les invite à relire l'histoire. Et parfois, Jésus nous invite à relire notre histoire à la lumière de sa parole, à la lumière des Écritures. Et il va commencer à raconter à partir des prophètes qui était ce Jésus qui était annoncé dès le commencement, celui qui allait écraser la tête de Satan, la tête du serpent. Et il va raconter, voilà, toutes ces choses devaient arriver, toutes ces choses devaient se passer, y compris ma mort, afin que la volonté parfaite de Dieu soit accomplie. Et donc, il les accompagne pendant tout ce chemin, hein, une bonne heure de marche probablement, hein, facilement, un peu plus même, et il leur raconte ces Écritures. Et petit à petit, ils reprennent vie, et après ils vont le reconnaître, hein, au moment où il va partager le pain et le vin. Et ils vont le reconnaître parce qu'ils vont retrouver aussi cette perspective divine. Le Saint-Esprit est libéré. La puissance de résurrection de Jésus est libérée par cette proximité avec lui, par cette proximité avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu. Et ils ouvrent les yeux et ils le reconnaissent. Et ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas ? Notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'on était en chemin avec lui ? Alors j'ai une question pour nous. Notre cœur brûle-t-il ? Notre cœur brûle-t-il ? Notre cœur brûle-t-il quand nous marchons dans les épreuves et peut-être on a l'impression que Jésus, il n'est pas là, comme ses disciples, à cause de nos espérances déçues, parce que nous ne voyons pas la fécondité qu'on attendait dans notre vie, dans nos ministères, dans ce que nous avons là où nous avons marché fidèlement, peut-être avec Dieu, mais sans fécondité apparente. Mais quand Jésus s'approche, quand Jésus nous parle à travers sa parole, notre cœur brûle-t-il encore ? Et donc j'en arrive au point qui synthétise ces trois histoires. Rappelez-vous de ces morts qui sont dans leur tombeau. Les tombeaux s'ouvrent, mais on nous dit qu'ils ressuscitent une fois que Jésus est ressuscité et qu'ils sortent, ils sortent des tombeaux. Vous voyez, ils attendent dans le tombeau, mais le tombeau est ouvert. Mais quand c'est le temps de la résurrection, et ils ne restent pas dans le tombeau. Ils attendent 3 jours après l'ouverture du tombeau, mais quand c'est le temps de la résurrection, ils ne restent pas dans le tombeau. Ils se lèvent, ils sortent. Et il parcourt la ville et il témoigne de cette résurrection de Christ. Quels sont les tombeaux ouverts dans nos vies dans lesquels nous demeurons ? Quels sont les tombeaux ouverts dans nos vies dans lesquels nous demeurons ? La mort de Christ a ouvert les tombeaux. Vous voyez, les tombeaux, ils s'ouvrent quand Jésus meurt. Parce que tout est accompli. Parce que par sa mort, il a payé le prix, la rançon. Et la mort, déjà, même si la résurrection n'est pas venue, mais déjà la mort n'a plus de pouvoir pour nous tenir prisonniers. Et le pardon ouvre le chemin de l'accès à Dieu. Le rachat ouvre le chemin de l'accès à Dieu, de la relation avec Dieu. Et donc ça ouvre le tombeau dans lequel on était, enfermé dans notre péché, enfermé dans notre folie, enfermé loin de Dieu. Le tombeau est ouvert, mais la question c'est, est-ce que nous avons accueilli la puissance de résurrection de Christ pour sortir du tombeau ? Ou est-ce que nous restons dans le tombeau ? Quels sont les domaines de nos vies où je n'ai pas appliqué la résurrection de Christ ? Peut-être on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand tu as fait cette connaissance avec Jésus, quand tu as touché les os de Jésus, la puissance de son sacrifice, la réalité de son sacrifice, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé et qu'est-ce qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé ou peut-être qu'est-ce qui a été volé depuis. Alors, quelques domaines qu'on pourrait citer, je pourrais dire que peut-être un des tombeaux, c'est le deuil d'un proche, parfois, voilà, ça entraîne la douleur, ça entraîne la tristesse, et tout ça est normal et tout ça est juste. Mais Dieu ne nous appelle pas à rester dans le tombeau avec les morts. Dieu nous appelle à pleurer, Dieu nous appelle à honorer, mais Dieu ne nous appelle pas à demeurer dans le tombeau avec les morts. Parfois, il y a des tombeaux dans lesquels nous restons après des échecs. Voilà, peut-être des échecs professionnels, peut-être l'échec d'un mariage, peut-être un échec avec nos enfants, où on avait espéré quelque chose de meilleur pour eux, et ça ne s'est pas passé. Peut-être un échec dans la vie de famille. Peut-être plein de domaines où on a dit « Oh, c'est fini, c'est fini. » Voilà, là, il y a eu l'échec, c'est fini. Je ne vois pas ce qui peut être racheté, comment il peut y avoir une vie de résurrection là-dedans. Mais Dieu n'a pas fini. Il n'a pas dit son dernier mot dans nos vies. Et c'est intéressant, enfin c'est étonnant de voir, j'étais frappé en réfléchissant, de voir à quel point échec et deuil sont souvent liés, même dans la Bible. Même dans la Bible. Je pense à l'histoire de David. Vous savez, quand il veut amener l'arche de l'Alliance, la ramener à Jérusalem, parce qu'elle avait été, justement, du temps des fils d'Élie et de Samuel, elle avait été capturée par les Philistins, et après elle est restée ailleurs en Israël pendant plusieurs années. Et lui, il décide de la ramener. Mais il fait pas, il consulte pas la parole de Dieu, donc il met ça sur un char, et puis on sait que ça se finit très mal, hein. Il y a Ouza là qui veut éviter à l'arche de tomber et il touche l'arche et là c'est pas la résurrection qui vient, c'est la mort de la, parce que justement il y a la présence sainte de Dieu et il pouvait pas la toucher sans être lui-même sanctifié. Et donc il y a la mort qui vient à cause d'un échec et on nous dit que David fut irrité et dans la crainte. Et David on ne sait pas exactement combien de temps, peut-être un certain nombre de semaines, de mois, il reste dans l'irritation contre Dieu et la crainte. À cause de l'échec, à cause de la mort, qu'il certainement il se dit « Ah, mais je suis responsable de cette mort. » Autre exemple, Moïse, qui cherche à délivrer Israël, vous savez, encore autant où il est encore en Égypte, et il pense qu'Israël va le reconnaître comme le libérateur. Et puis ils lui disent, mais qui t'a établi pour être chef sur nous? Et il tue cet Égyptien, vous savez. Et après, il est obligé de fuir. Un, parce qu'il n'est pas reconnu par son peuple, et deux, parce qu'il a tué quelqu'un. Et il erre pendant 40 ans dans le désert. 40 années dans le tombeau du désert. Et quand Dieu le rencontre face à face, à travers le buisson ardent, est-ce que Moïse a envie de retourner en Égypte? Confronter son tombeau et son échec et ce deuil. Oh non, 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 non. Il dit, oh mais non, mais je suis bègue. On ne sait pas depuis quand il est bègue d'ailleurs. Est-ce qu'il est devenu bègue dans le désert ou est-ce qu'il était, il dit, c'est pas d'aujourd'hui, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, il se sent incapable de sortir de ce tombeau pour entrer dans le mandat de puissance de résurrection de Dieu. Et donc, dans ces deux cas, vous voyez, il y a une sorte de culpabilité et qui tient prisonnier jusqu'à ce que Moïse voie Dieu face à face, jusqu'à ce que David consulte les Écritures et voit comment il fallait procéder pour transporter l'arche de Dieu avec les Lévites sur les épaules, avec la purification, etc. Et très souvent, l'échec et ce sentiment de culpabilité entraînent la honte et l'opprobre. La honte, voilà. Donc, comme Moïse qui ne se pense pas digne de retourner en Égypte. Et parfois aussi, ces domaines sur lesquels nous n'avons pas reçu la résurrection, ça peut être la peur. Pensez à Gédéon qui est dans l'air, qui se cache parce que il dit voilà, Dieu n'agit plus dans le pays, il le voit pas, ses yeux sont empêchés de le reconnaître, même quand un ange, l'ange de l'Éternel, vient le visiter. Pour moi, est une théophanie, une apparition avant l'heure de Jésus. Mais quoi qu'il en soit, il est dans la peur. Les disciples d'Emmaüs, la déception, la lassitude, le découragement. Peut-être des fois, notre tombeau, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres qui pèse sur nous et qui nous disent « tu n'es pas digne ».
quel est le tombeau qui nous tient prisonniers. En tout cas, toutes ces épreuves de la vie, voilà, ça engendre... Vous savez, Jésus, il n'est pas resté dans le tombeau. Il nous dit que sa chair n'a pas connu la corruption. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir. Et celui qui a l'esprit de résurrection de Christ, la mort ne peut pas le retenir. La corruption ne doit pas gagner son... Non, alors bien sûr, hein, on est condamné à mourir, hein, mais à ressusciter aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il y a des épreuves dans nos vies qui viennent corrompre nos cœurs, qui viennent corrompre notre esprit. Et c'est comme si on était couvert de vermine, de la corruption, et il faut enlever ça, proclamer le sang et la résurrection de Christ pour être purifié de cette corruption qui colle à notre peau, mais plutôt toucher les os de Jésus qui transmettent la puissance de résurrection et qui nous purifient. Combien de fois l'ennemi, par ce genre de déception, de deuil, d'échec, essaie de semer sa corruption dans nos cœurs et dans nos vies. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qui, lui, a la puissance de résurrection pour racheter toutes choses. Comment sortir de nos tombeaux? Donc on l'a vu, avec les disciples d'Emmaüs, Jésus les accompagne avec la puissance de l'Écriture et par le Saint-Esprit, il leur révèle, et aussi par la proximité et l'intimité. Donc je crois vraiment que la proximité, l'intimité avec Jésus, avec la parole de Dieu, est une puissance pour sortir de nos tombeaux. Un face-à-face avec Dieu, dans cette intimité, Dieu nous donne des rendez-vous divins de face à face, comme il l'a fait avec Moïse, pour le faire sortir du tombeau d'incapacité dans laquelle il était tombé. Se laisser consoler par Dieu, se laisser pardonner par Dieu, se laisser pardonner par Dieu. Même si nous pensons que nous sommes responsables, mais souvent c'est l'ennemi qui appuie là sur la responsabilité, la culpabilité, pour que nous restions dans notre tombeau, au lieu d'entrer dans la résurrection. Ne plus se croire maudit et rejeté, mais plutôt béni et approuvé de Dieu. Dieu est le Dieu du rachat, le Dieu du recommencement, pour quiconque revient à lui. Vous avez encore une preuve. Pierre, c'est vraiment pas le disciple le plus recommandable, hein. C'est celui qui renie 3 fois Jésus, mais Jésus lui dit, va, paie mes brebis, m'aimes-tu, 3 fois, va, paie mes brebis. Et qui sait que vous auriez choisi à la Pentecôte pour prendre la parole? Sincèrement, moi je pense que si on était les disciples, on allait dire, mais Pierre, reste tranquille dans ton coin, tu te souviens de tout ce que tu as fait. Là, je pensais pas toi qui dois prendre la parole. Peut-être Jean, là, parce qu'il avait une bonne proximité avec Jésus. Mais non, c'est Pierre qui prend la parole, parce qu'il est rempli de cette puissance de résurrection et de vie, de rachat, de pardon, et il se relève et il devient un pilier dans l'Église primitive. Donc pour finir et pour conclure, oui, je donne peut-être une petite histoire qui m'a traversé l'esprit quand je travaillais là-dessus. Il y a de nombreuses années, j'étais à Bangui, c'était à l'époque où on a le début de notre relation avec Maggie, et on était parti dans son village. Et quand on est arrivé, il y avait un de ses oncles qui était malade, sérieusement malade. Il revenait de la forêt, d'une grande marche en forêt, et il est tombé malade. On a pensé que c'était le palu, ça s'est aggravé, on lui avait donné des trucs contre le palu, et puis on nous dit non, il est hospitalisé, et on va le voir au dispensaire qui était à quelques heures de marche, où il fallait prendre une pirogue pour descendre la rivière. Et puis on le voit, et je ne sais pas pourquoi, quand je vois les symptômes, alors que j'avais juste lu quelque chose par rapport à ça des années avant, et quelque chose me dit, ah, je demande au médecin, enfin qui était un médecin militaire, je ne sais pas exactement le diplôme qu'il avait, et je lui dis, est-ce que vous lui avez donné la pénicilline? Parce qu'il était gonflé de partout. Il me dit, oui, effectivement, on l'a soigné avec la pénicilline. Et j'ai cette intuition de dire, mais c'est ça peut-être qui est en train de le tuer. C'est une allergie à la pénicilline. Et je lui demande à son oncle, est-ce que tu as eu des problèmes avec la pénicilline quand tu étais jeune? Et il dit oui, et il avait un problème de marche, et apparemment, quand il était enfant, on l'avait soigné avec la pénicilline, et ça avait, il avait eu un premier effet. Et donc, on décide de l'évacuer. Et je dis, il faut l'évacuer, il faut qu'on l'envoie à Bangui pour qu'il puisse être soigné, pour qu'il puisse avoir un traitement pour le guérir. Et puis tout traîne. Ah, mais le médecin était parti, il faut l'attendre pour avoir l'autorisation, ceci, cela. C'était grande discussion dans la famille. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'on peut le transporter jusqu'à Bangui? Et finalement, l'heure du dernier bus est passée et ça ne s'est pas fait. Et on est rentré le soir au village, et le lendemain matin, à l'aube, je me souviendrai toujours de ça. J'entends un cri qui déchire la forêt. Et la cri, et tout de suite je comprends. Et c'était sa femme qui revenait en criant parce qu'il était mort. Et ça m'a beaucoup marqué, cette histoire. Je me disais, ah, mais on aurait pu le sauver. Peut-être, voilà, tu n'as pas assez insisté. Peut-être que tu n'as pas eu assez de compassion pour ça. Mais quelque chose me disait, mais que cette expérience serve pour l'avenir. Et des années après, au Burkina, on a encore été confronté à un cas de personne, un centrafricain qui était très malade, qui était à l'hôpital au Burkina. Et on a prié pour sa guérison, mais on sentait avec Maggie qu'il avait peu de temps à vivre, et on sentait qu'il fallait qu'il rentre à Bangui pour, s'il devait mourir, qu'il puisse être là-bas avec la famille, en tout cas qu'il puisse vivre avec la famille les derniers temps, etc. Et donc les médecins disaient non, il n'est pas transportable. C'était exactement la même histoire. Et là, on ne s'est pas laissé fléchir. Et j'ai dit non, il faut à tout prix qu'il rentre à Bangui. Et il est rentré à Bangui, il a vécu encore un peu de temps, il est mort quelque temps après, mais il y a quelque chose certainement qui s'est vécu avec sa famille. Et c'est comme si Dieu rachetait quelque chose. Là. C'est comme si Dieu, qui est le Dieu de la résurrection et de la vie, rachetait quelque chose. Et en pensant à ça, je me suis rappelé de mon père, qui est mort il y a une quinzaine d'années. Et ma mère, au téléphone, a dit, oh, il va très mal. Non, c'est pas la peine de venir, c'est à 1000 kilomètres. Les médecins disent qu'il va pas passer la nuit. Et on a prié avec Maggie, avec notre fille Elenaï, et on savait qu'on devait aller, qu'on devait faire toute la route, et on savait qu'il allait rester en vie tout ce temps-là. Et on a fait toute la route, on est arrivé le soir, on l'a vu, et le lendemain, on a eu un temps extraordinaire avec lui dans la chambre d'hôpital avec Maggie. On chantait les cantiques. Mon père n'était pas chrétien en tant que tel, il avait une éducation chrétienne. Mais il s'est passé quelque chose. Et j'ai vu le visage de mon père transformé quand il était mort sur le lit de mort. Mais son visage, c'est comme si ça souriait, ça brillait. Et voilà, ça c'est la façon dont Dieu rachète. Donc là, ce sont des exemples de mort. Mais ce que je voudrais souligner, c'est comment Dieu peut proclamer la vie. Et comment nos échecs peuvent être rachetés. Comment Dieu nous appelle à sortir des tombeaux dans lesquels nous demeurons et à entrer dans sa puissance de résurrection et de vie. Et comment les expériences du passé et la mort et la corruption du passé qui restent attachées à nos peaux peuvent être lavées, purifiées et libérées pour entrer dans la puissance de vie de Dieu. Amen. On va prier. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes témoins que à la croix, tu as dit tout est accompli. Tout est accompli. Et Seigneur, aujourd'hui, ce tout est accompli de Jésus à la croix, il est pour nous. Et tu nous appelles à y entrer, à l'appliquer à nos vies. Seigneur, pardon pour chaque fois où nous ne venons pas en contact avec toi pour toucher tes eaux et pour laisser la puissance de ta résurrection agir dans nos vies et libérer tout ce qui nous tient prisonniers. Seigneur, dans combien de tombeaux sommes-nous restés trop longtemps, Seigneur? Je prie pour une libération de la puissance de résurrection de Jésus dans chacune de nos vies, dans les domaines où tu sais que nous sommes encore dans un tombeau, et un tombeau ouvert. Un tombeau ouvert, Seigneur. Et il n'y a plus qu'à sortir avec la puissance de ta résurrection. Et donc, que ce soit le deuil, que ce soit l'échec, que ce soit quelque chose qui nous a percuté au fond de nous-mêmes et qui nous dit « tu n'es pas digne, tu as échoué, tu es coupable ». Seigneur, nous voulons rejeter tout cela en nous tournant vers toi, en touchant les os de Jésus, en touchant la puissance de résurrection du tout est accompli à la croix de Jésus, la puissance de résurrection qui a fait sortir Jésus du tombeau, que rien ne pouvait le retenir. Seigneur, merci, merci que cette puissance est encore agissante aujourd'hui. Merci que cette puissance de résurrection est encore à notre portée par cette proximité, par cette intimité et par cet amour de Jésus répandu dans nos vies. Je te bénis, Seigneur, et je prie cela pour chacune de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, afin que ton peuple se lève, afin que tes enfants sortent, afin que tes enfants témoignent, manifestent la puissance de la résurrection de Christ et que beaucoup pourront la voir et savoir qui tu es et savoir ce que tu as accompli dans leur vie et ce que tu veux accomplir dans leur propre vie aussi. Dans le nom de Jésus. Amen.